Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au cœur de l'histoire. À l'occasion du Salon de l'agriculture, je vous raconte l'aventure de la pomme de terre. Ce tubercule est consommé sous toutes les formes possibles dans tous les pays européens. Ce légume si populaire a parfois eu du mal à s'imposer. Il a aussi été involontairement à l'origine d'une épouvantable crise. La pomme de terre nous vient d'Amérique du Sud. Elle est originaire des Andes du Chili et du Pérou. Elle débarque, logiquement, en Espagne en 1534. De là, en 1588, elle est envoyée en Autriche au savant botaniste Clusius qui la répand dans les États allemands. Puis, elle passe en Suisse et d'une façon marginale dans l'est de la France. Elle est cultivée en Angleterre depuis 1585 et elle arrive dans les Flandres en 1620, 4 siècles de frites pour la Belgique. Mais en France, on se méfiait de ce légume. On considérait que c'était une nourriture pour les animaux. C'est Antoine Parmentier qui va se charger de nous la faire aimer. Il naît en 1737 dans l'actuel département de la Somme. À 20 ans, il part comme apothicaire aux armées et participe à la guerre de 7 ans. Blessé et fait prisonnier à Hanovre, il en profite pour étudier la flore de la région. Il s'intéresse en particulier à une plante dont les tubercules sont utilisés dans l'alimentation. Rentré en France, il reprend ses études et il obtient en 1766 le grade d'apothicaire aide-major avec poste et logement à Paris, à l'Hôtel Royal des Invalides. Son laboratoire y est encore conservé. En 1772, il est nommé au grade d'apothicaire-major. Cette même année, l'Académie de Besançon fonde un prix dont le but est de découvrir de nouveaux végétaux pour l'alimentation humaine. Cette démarche est dans l'esprit des physiocrates, ces philosophes économistes du XVIIIe siècle. Parmentier concourt et propose la pomme de terre. Il en a déjà cultivé plusieurs variétés. Il en a fait l'examen chimique. Il a constaté qu'elle était comestible et parfaitement sans danger. C'est lui qui, en 1773, remporte le prix de l'Académie de Besançon. Il souhaite en faire un produit de grande consommation. Après la famine de 1785, avec le soutien du roi Louis XVI qui a goûté et aimé la pomme de terre, Parmentier organise une promotion publicitaire de ce légume pour convaincre la population. Il en cultive sur 50 arpents dans la plaine des Sablons, au village de Neuilly, près de Paris. La pomme de terre est lancée, elle va s'inviter à la table de tous les Français. Il serait cependant injuste de limiter Parmentier à l'essor de la pomme de terre. C'est un grand savant. Pour remédier à la pénurie de sucre de canne, il met au point la fabrication de sirop de raisin et de végétaux sucrés. Il étudie l'utilisation des produits laitiers, la conservation des vins et des farines. Il réforme la meunerie et la boulangerie. Il préconise déjà la réfrigération des viandes. Il fait aussi des travaux sur l'opium et sur l'ergot de seigle. Après la Révolution, Bonaparte le nomme en 1805 inspecteur général des services de santé. Le titulaire impose à la Grande Armée la vaccination antivariolique. Il meurt en 1813. Il était un authentique savant des Lumières. De tous les pays d'Europe qui ont adopté la pomme de terre, l'Irlande est certainement celui qui l'a fait avec le plus d'enthousiasme. Elle entre dans la composition du plat national irlandais, l'Irish Stew. Tous les paysans se sont mis à cultiver ce légume. Il s'accommode des terres les plus ingrates et des vents les plus violents. Au XVIIIe siècle, elle était déjà cultivée partout. Un siècle plus tard, en 1841, l'Irlande compte 8 175 000 habitants. Le premier ministre de la reine Victoria, Disraeli, considère que c'est le pays le plus peuplé d'Europe. Il affirme aussi que sa population rapportée à la superficie des terres arables dépasse celle de la Chine. Or, cette population dépend exclusivement de la terre et son sort est lié à la fluctuation des prix agricoles. Si ces prix chutent, les landlords, c'est-à-dire les grands propriétaires terriens, expulsent leurs paysans pour consolider leurs revenus. Ils convertissent les surfaces cultivées en prairies pour l'élevage. C'est une tendance lourde. Le résultat est que ce qui reste de terres arables est divisé à l'excès en parcelles minuscules. Elles sont impropres à assurer la subsistance des paysans. La plupart du temps, ils doivent, entre deux récoltes, s'exiler pour trouver du travail en Angleterre. En 1835, une enquête gouvernementale évalue à 2 500 000 le nombre de personnes qui, en Irlande, souffrent d'un chômage annuel de 30 semaines et des privations qu'il entraîne. C'est une situation extrêmement précaire. Le moindre imprévu peut la transformer en catastrophe. En 1845, l'imprévu s'appelle Phytophthora infestans, autrement dit le mildiou. Il s'abat sur l'ensemble de l'Europe, anéantissant les récoltes de pommes de terre tandis que les intempéries détruisent les céréales. La pénurie sévit partout, en Angleterre, en France et dans la Confédération germanique. En Belgique, plusieurs centaines de milliers de Flamands subissent la famine et le typhus. Ce même fléau cause 16 000 morts en Silésie, qui est une partie de la Pologne. La crise agricole s'ajoute à la crise économique que traverse l'Europe, contre-coup des spéculations effrénées sur les chemins de fer et sur la métallurgie. Plusieurs banqueroutes entraînent du chômage et une récession dans de nombreux pays. Mais c'est en Irlande que la disette prend une ampleur inhabituelle. Elle surpasse en horreur tout ce qu'on avait vu jusque-là. Lord John Russell la qualifie de « famine du XIIIe siècle ». Pourquoi est-ce plus grave en Irlande ? La réponse nous est donnée par Louis-Paul Dubois.
Les Irlandais vivent de pommes de terre comme les Chinois de riz. Vienne une mauvaise récolte, ce sera la catastrophe.
Il n'y aura pas une seule mauvaise récolte, mais plusieurs. En 1845, le mildiou détruit la récolte en quelques jours. En 1846 et 1847, elles sont totalement anéanties. L'Angleterre doit se porter au secours de l'Irlande. Elle le fait de deux façons différentes, d'abord avec le Premier ministre conservateur Peel, puis avec le très libéral John Russell. Le conservateur Peel décide d'acheter 100 000 livres sterling de maïs aux États-Unis pour nourrir les Irlandais. Il met sur pied une commission de secours. Des commissaires sont chargés de former des comités locaux pour réunir des fonds et acheter des denrées alimentaires. On instaure une politique de grands travaux pour créer des emplois. Enfin, le gouvernement britannique s'engage à prendre à sa charge les deux tiers de l'assistance alimentaire. L'effort est considérable, mais insuffisant. Il y a surtout un étrange paradoxe. Les landlords reçoivent de leurs paysans une rente. Pour s'en acquitter, les paysans, déjà éprouvés par la disette, cultivent et exportent des céréales auxquelles ils ne peuvent toucher de peur d'être chassés de leurs terres. La conséquence effarante est que l'Irlande, pendant toute cette période de famine, continue à exporter des céréales et du bétail uniquement pour le service de la rente foncière. Le spectacle des convois protégés par l'armée, acheminant les céréales dans les ports irlandais, est évidemment intolérable aux foules affamées. Robert Peel veut abolir les Corn Laws, les taxes. Il y sacrifie sa carrière politique. Il parvient à faire voter son abrogation, mais ne peut se maintenir au pouvoir. En juin 1846, Lord John Russell dirige un nouveau gouvernement, totalement libéral et partisan du laisser-faire. C'est de la folie. La récolte de 1846 est encore plus désastreuse que celle de l'année précédente. L'hiver 1846-1847 est épouvantable. Dans l'ouest de l'Irlande, on cesse toute distribution de nourriture. Laissons parler l'historien Pierre Johannon.
Des bandes de gens affamés, mendiant leur nourriture, parcouraient le pays, plus semblables à des loups faméliques qu'à des êtres humains. Les misérables, avés décharnés, mouraient par centaines dans les masures, les entrepôts surpeuplés et les chantiers. On enregistrait ça et là des cas de cannibalisme. Des corps à demi rongés par les rats et déchiquetés par les chiens errants étaient spectacle courant. Il n'y avait plus d'état civil, plus de cérémonies religieuses, plus de cercueils. On emportait, à la hâte, les cadavres dans une bière à fond mobile, d'où ils tombaient tout droit dans la fosse commune.
L'État britannique est totalement défaillant. Les associations charitables prennent le relais. Les Quakers, l'association anglaise du baron Lionel de Rothschild, acheminent et distribuent les secours. Des collectes de fonds sont organisées en Grande-Bretagne et dans tout l'Empire britannique. La reine Victoria y participe personnellement. Le gouvernement américain fait envoyer 2 frégates de vivres à destination de l'Irlande. La situation est terrible. Au printemps 1847, à la famine s'ajoutent le typhus, le scorbut et l'œdème de la faim. L'opinion britannique se retourne contre les landlords, les accusant d'être des affameurs responsables de la situation. Certains d'entre eux se comportent mal, d'autres, comme les Guinness, les Stopford, les Shannon, se dévouent inlassablement auprès de leurs paysans dans cette terrible période. Les Irlandais leur en sont encore reconnaissants. 1849, la 4e et dernière année de crise, est sans doute la pire. Les Anglais n'en peuvent plus des malheurs irlandais et les Irlandais se sentent abandonnés. Pour tenter de les réconcilier, le vice-roi fait venir la reine Victoria en Irlande. En août 1849, elle se montre pleine de compassion et de gentillesse. La souveraine gagne tous les cœurs irlandais, mais c'est trop tard. La grande famine se termine, elle a été si violente et les Anglais si défaillants que toute réconciliation entre l'Irlande catholique et son suzerain protestant est impossible. La première conséquence de ces 5 années de famine est évidemment démographique. L'Irlande passe de 8 165 000 habitants en 1841 à 3 468 000 en 1891. Soit près de 5 millions d'habitants en moins. Naturellement, cette chute spectaculaire n'est pas due seulement à la mortalité, mais aussi à un autre phénomène dont nous reparlerons, l'émigration. Toutefois, l'Irlande, qui compte aujourd'hui environ 5 500 000 habitants, n'a jamais retrouvé les chiffres d'avant 1845. Cyniquement, on pourrait dire que la famine a apporté une réponse au chômage en faisant disparaître plus de 2 millions d'Irlandais. Le déclin de la population des petits fermiers s'accompagne de la diminution importante des petites parcelles non rentables. La superficie des terres des paysans leur permettra de vivre correctement. La petite exploitation irlandaise prend sa configuration actuelle, familiale, partagée entre l'agriculture et l'élevage du bétail. Autre conséquence, la disparition de la langue irlandaise, le gaélique, parlée essentiellement dans l'ouest de l'île, qui sera la plus touchée par la famine. Pour compenser la perte de leur langue originelle, les Irlandais se tournent vers la religion, le clergé, des prêtres aux évêques et leurs ouailles, sont de plus en plus tentés par le nationalisme. La conséquence la plus importante est évidemment le grand mouvement des migrations. Il va vider l'Irlande d'une partie de ses enfants. Beaucoup se tournent vers la Grande-Bretagne, Liverpool, Glasgow, Manchester, Londres bien sûr. Toutes ces cités ont leur petite Irlande. C'est un sous-prolétariat de gens malades et affamés qui va provoquer la colère des ouvriers britanniques. Ils redoutent la concurrence de cette main-d'œuvre si bon marché. On verra, à plusieurs reprises, des scènes violentes de répression anti-catholique. Beaucoup d'Irlandais partent plus loin dans l'Empire, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais l'essentiel se tourne vers les États-Unis. Par milliers, ils s'embarquent pour le Nouveau Monde. Leurs transporteurs profitent de leur misère. Les bateaux sont surchargés. Ces pauvres passagers n'ont souvent pas assez d'eau ni de nourriture pour la traversée. Quant aux consignes de sécurité, elles sont inexistantes. On les appelle les bateaux cercueil. Le typhus s'en mêle. Un exemple. Sur les 440 passagers du Larch, 108 mourront en mer, et 150 arriveront sur la terre américaine porteurs du typhus. Écoutons une commissaire de l'immigration.
Si l'on pouvait dresser des croix sur l'eau, la route des émigrants à travers l'Atlantique ne serait qu'un immense cimetière.
Si les États-Unis ont été émus par la famine irlandaise, ils le sont beaucoup moins par cet afflux d'immigrants sans ressources qui ne peuvent que faire baisser les salaires. Comme en Grande-Bretagne, il y a des agressions contre des Irlandais à Philadelphie, à Boston. Le fait qu'ils sont catholiques n'arrange pas les choses. Les immigrants s'entassent dans des quartiers insalubres, notamment à New York. Il y a de la violence et déjà des gangs. Pourtant, des Irlandais se feront une place aux États-Unis. Beaucoup vont travailler dans les chemins de fer, les canaux et le bâtiment. Ils sont nombreux à s'engager dans la police. Il y a des sociétés secrètes de défense ouvrière contre les patrons. Dès 1889, ils contrôlent pratiquement un important syndicat, l'American Federation of Labor. Les Irlandais prennent aussi le contrôle de l'Église catholique américaine, très centralisée, contrairement à l'émiettement des sectes protestantes. Elle compte aujourd'hui 50 millions de fidèles. En peu de générations, certains vont faire fortune. Deux exemples célèbres. Les Kelly, dans le bâtiment à Philadelphie. Grace Kelly aura le destin d'une star, puis celui inoubliable d'une princesse de Monaco. Et les Kennedy, qui, après les affaires, choisiront la politique. Ils donneront un président aux Américains. Pour des mangeurs de pommes de terre, certains ont bien réussi et appartiennent à l'histoire des États-Unis et du monde. Si cette plongée au cœur de l'étonnante histoire de la pomme de terre vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaud. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.